France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Rémi Inc.
Et nos informés ce soir autour de la table, Natacha Kester-Séméon, membre de l'association de promotion de la mixité Jamais Sans Elle, cofondatrice du club d'entrepreneureux Girl Power 3.0 et directrice générale de l'agence d'innovation digitale You Are Here. Bertrand Martineau, économiste, essayiste, spécialiste de l'emploi et du travail, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, et Guy Konopnicki de Marianne. Bonsoir à vous quatre. Nous allons revenir sur cette décision du Conseil d'État sur un arrêté anti-Burkini, décision qui fera autorité pour la suite. Nous verrons également comment a été perçu ce débat à l'étranger. Autre sujet abordé ce soir, où en est la gauche de la gauche? Plusieurs partis se réunissent ce week-end. Et puis dans la dernière partie des informés, à direction la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan qui se rêve en sultan à la poursuite de l'Empire ottoman. Et vous pouvez évidemment, comme tous les soirs, réagir sur les réseaux sociaux pendant tout le débat grâce au hashtag, le mot-clé, les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Le Conseil d'État a donc ordonné aujourd'hui la suspension de l'arrêté anti-burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Dans sa décision, le Conseil d'État rappelle que ce burkini n'entraînait pas de risque de trouble à l'ordre public sur les plages de cette commune. Ajoutons que cette décision ne porte que sur cet arrêté, elle fera autorité pour la suite. Les associations peuvent désormais contester chaque arrêté anti-burkini et obtenir ainsi leur suspension dans chaque municipalité. Première question à vous, Natacha Kester-Séméon, tout ça pour ça?
Oui, mais surtout, ce que je remarque, c'est que finalement, ce n'était pas du trouble de l'ordre public, mais ça jetait le trouble dans l'opinion publique. Et finalement, on est en pleine guerre psychologique. On essaye de nous remettre en cause nos valeurs entre l'égalité homme-femme. Et ça y marche vraiment très, très bien, surtout en plus sur les réseaux sociaux. Et ça, je suis assez effarée de voir que finalement, ça devient l'hystérie autour de ce sujet.
C'est vrai que ça a été l'hystérie sur ce sujet, Guy Konopnicki.
Bah, écoutez, d'abord, la question, c'est nous avons affaire à une attaque frontale d'un courant obscurantiste, pas seulement sur la question de l'égalité, c'est-à-dire qu'il y a un courant obscurantiste qui, en France, veut imposer sa loi, veut le droit de cité, etc. C'est pas la question des musulmans de France, c'est la question de ce courant obscurantiste. Et on n'arrête pas de s'y prendre de la pire manière pour répondre. C'est-à-dire que l'arrêté, on s'attendait à ce qu'il pose des problèmes de droit. C'est-à-dire que vous légiférez sur un maillot de bain, il y a un problème. Vous légiférez sur un maillot de bain dans une république qui, à part ses condamnations du terrorisme, qui sont quand même la moindre des choses, est pratiquement muette sur cette question. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'entendre attention aux amalgames, des tas de trucs. Mais attendez, la République qui s'est imposée face à une autre religion qui à l'époque était totalitaire, qui était l'Église catholique, elle était combative. Et là, ni à droite ni à gauche, on est combatif, faut le dire. Sur le fond, c'est-à-dire que est-ce qu'on combat l'obscurantisme? Est-ce qu'on soutient ce que nous faisons, cette semaine dans Marianne pour la pub, les femmes qui luttent contre l'oppression islamique? Est-ce qu'on le fait? Ben non.
Bertrand Martineau, vous acquiescez?
Ah oui, complètement. Cet arrêt du Conseil d'État montre bien les limites du traitement d'un sujet par le prisme du trouble à l'ordre public, puisqu'en fait, on est sur le contrôle d'un abus de pouvoir manifestement excessif, et le fond du problème, évidemment, il n'est pas là. On n'est pas sur un problème juridique, d'ailleurs, on n'est même pas sur un problème religieux, on n'est même pas sur un problème de laïcité, on est sur un problème absolument politique, finalement. Mais totalement politique, donc le droit doit venir à la suite d'une analyse politique et d'un débat politique qui doit être tranché, qui ne peut être tranché que par la loi, évidemment. Bon, c'est pas au juge de trancher au cas par cas selon le fait que c'est manifestement un trouble manifestement excessif, il y a risque d'une rixe ou pas, etc. En fait, ce qui se passe, je rejoins exactement ce que vient de dire Guy Konopnicki, on est confronté à une montée dans le monde musulman, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, de la montée d'idéologie totalitaire, fondamentalement hostile au principe de la société ouverte et libérale que nous incarnons, nous, la France, l'Europe, etc. Bon, donc, ça prend des formes diverses qui sont politiques. Ça peut prendre des cas extrêmes de passage à l'acte terroriste d'individus qui sont de la chair à canon de ces idéologies. Ça peut être des discours d'imams assez ambigus, genre Tariq Ramadan, etc., sur les femmes, sur la politique, sur le judaïsme, etc. Et ça peut prendre aussi des formes un peu plus soft de revendications identitaires qui sont le burkini, par exemple. Donc la réponse, elle est purement politique. Et là, je pense qu'il y a deux types de réponses politiques. Soit une réaffirmation même un peu brutale de nos valeurs, de nos valeurs qui sont enracinées dans une histoire, dans des luttes politiques. On a eu ces débats pendant des siècles, des débats sanglants, avec effectivement la remise au pas du fanatisme religieux, qui avait aussi une dimension politique. Il ne faut jamais oublier que la question de la laïcité s'est posée bien avant la République, mais c'est un combat de très long terme entre l'État royal et l'Église ultramontaine. Donc la première possibilité, c'est réaffirmation, même un peu brutale, de nos valeurs. Ça passe forcément par des lois, voilà, et pas forcément des lois de circonstance. Et deuxième possibilité, des accommodements raisonnables. On disait en 1939, appeasement, au moment des accords de Munich, pas de stigmatisation, ne pas manier la muleta devant les terroristes et devant Daesh, parce que ça risquerait d'être qu'ils soient encore plus méchants. Voilà, c'est ce débat qu'il faut trancher, il faut faire la politique, et ensuite on fera du droit.
Justement, sur les réactions politiques, elles sont différentes, évidemment, après cette décision du Conseil d'État, à droite et à gauche. Je vous propose d'écouter Guillaume Larrivé, le porte-parole des Républicains, puis le député socialiste de l'Hérault, Sébastien Denaja.
Le Parlement doit prendre ses responsabilités. Et donc, très concrètement, avec Éric Ciotti, avec Éric Woerth, avec Laurent Wauquiez, nous allons préparer une proposition de loi qui sera déposée à l'Assemblée nationale au moment de la rentrée parlementaire pour sécuriser les décisions des maires qui interdisent le burkini. Nous n'avons pas l'intention de céder un centimètre carré de terrain aux islamistes qui voudraient asservir les femmes françaises.
La plus haute juridiction administrative a dit le droit en disant que l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Fermez le banc. Donc, il faut aujourd'hui que les maires des 29 autres communes qui ont pris des arrêtés de ce type les retirent. Et s'ils ne le faisaient pas, je pense que c'est au préfet de déférer ces actes, ces arrêtés municipaux, devant le juge administratif.
Voilà, donc on le voit, à droite, une loi pour interdire le burkini, à gauche, fermer le banc, tous les arrêtés doivent être annulés après cette décision du Conseil d'État.
Enfin, à gauche, c'est pas la seule voix à gauche, j'ai entendu Jean Glavany, on a entendu d'autres, qui ont une position un peu plus... Mais ce qui est formidable, c'est qu'une fois de plus, à droite, on nous dit, on va faire une loi de circonstance. Mais ça fait 15 ans qu'on fait des lois de circonstance face à l'islamisme. Qu'est-ce qu'on va dire dans la loi de circonstance ? Alors on va présenter un projet à la rentrée parlementaire, on va discuter le temps du débat parlementaire, puis ça revient au Sénat, puis ça revient à l'Assemblée. Alors on va arriver en février, quand personne ne regardera plus ce qui se passe sur les plages, et on aura notre loi de circonstance où elle sera rejetée, où elle sera amendée. C'est absurde.
C'est de la réaction politique, ça, quand même.
Enfin, à un moment, il y a un arsenal de lois dans la République, dont certaines datent de 150 ans. Qui permettent de dire que un certain nombre de vêtements religieux, par exemple, il y a des communes interdisaient le port de la soutane sur le territoire de la commune et le Conseil d'État n'invalidait pas ces arrêtés. Mais nous étions dans un mouvement solide, sérieux, pour arriver à la séparation de l'Église et de l'État. Quand la Révolution française décide que les femmes en France ne seront plus obligées par leur père de porter le voile et d'être enfermées dans un couvent. C'est une des premières décisions de 1789, quand même. On ouvre les couvents. Et oui, effectivement, on mettait les voiles aux femmes, on les enfermait quand elles fautaient. C'est interdit en France depuis la Révolution. L'émancipation était plus longue, puisqu'il a fallu attendre 1945 pour le droit de vote. Mais tout de même, c'est une histoire, c'est un combat. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut avoir un gouvernement, des partis politiques capables de défendre cette histoire et ces valeurs-là?
Justement, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la division politique est bien là au sein même du gouvernement. Est-ce que c'est un revers aujourd'hui pour Manuel Valls, rappelons-le, qui au début soutenait les maires, qui avaient pris ces arrêtés, des arrêtés légitimes selon lui, au nom du trouble à l'ordre public, Éric Scholl?
Je ne sais pas si c'est un revers pour Manuel Valls. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'unité aujourd'hui à gauche sur ces questions, comme il n'y en a d'ailleurs pas du tout à droite. C'est-à-dire que si on prend le bilan à la fois politique et puis en termes d'image de ce que présente la France depuis maintenant 15 jours, c'est un désastre. Sur le plan politique, Manuel Valls, oui, on peut considérer que c'est un revers. En même temps, il pourra toujours s'appuyer sur les sondages qui montrent qu'il y a une majorité de Français, je crois que c'est l'IFOP qui a fait ce sondage, qui montre qu'il y a 64% des Français qui sont pour l'interdiction du burkini. Donc, Manuel Valls joue une carte autoritaire dans son camp, comme à droite, il se passe la même chose. On a un double contexte, un contexte, j'allais dire, post-Nice, un contexte post-attentat qui est extrêmement lourd dans lequel s'inscrit ce débat. Et puis, évidemment, on a le contexte électoral. On est quand même en pleine campagne et c'est ce double contexte qui rend, assez presque grotesque. Et ça, c'est le mot du Guardian, ce qui vient de se passer au cours de ces derniers jours. Et c'est pour ça que le débat n'est pas clos. Cette décision du Conseil d'État va encore faire couler beaucoup d'encre, notamment à cause de la campagne électorale.
Natacha Kester-Séméon, sur ce point-là.
Ce qu'on voit, c'est que qu'est-ce qui va venir après? Ça va être la séparation entre les hommes et les femmes dans les piscines? Est-ce que ça va être d'avoir une maître nageuse comme il y a en Australie avec un burkini? Franchement, il faut qu'on se pose les questions de base sur les valeurs, sur l'égalité d'hommes et femmes. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Et on tombe dans ce piège de division, d'opposition, d'oubli, de grand n'importe quoi, faut bien le dire, hein, parce que c'est de l'hystérie généralisée autour de ces sujets, et on se rappelle pas là d'où on parle. On doit défendre les valeurs républicaines, et aussi se rappeler de tout ça, parce que sinon, toujours à parler des symptômes sans parler des causes, de ne pas réfléchir sur, en fait, comme vous le disiez, monsieur, sur les tentatives de banalisation du totalitarisme et du salafisme en France, et c'est un vieux débat, et aujourd'hui, il faut peut-être trouver de nouvelles solutions.
On va continuer ce débat, notamment sur, on en parlait à l'instant, sur l'image que la France a pu dégager pendant tous ces débats. Dans une minute, le temps de faire un point sur l'actualité. À 20h16, l'info avec Alexandra Dubouchon.
La décision du Conseil d'État n'épuise pas le débat ouvert dans notre société. Déclaration du Premier ministre Manuel Valls à l'instant sur Facebook. Tout à l'heure, le Conseil d'État a suspendu l'arrêté dit anti-Burkini de Villeneuve-Loubet car il n'y a pas, selon lui, de risque avéré d'atteinte à l'ordre public. Et puis ce soir, 5 communes qui ont pris ces arrêtés anti-Burkini annoncent qu'elles refusent de les retirer. Le 4, Nice, Fréjus, Villeneuve-Loubet et Cisco. On attend aussi tout à l'heure la décision du tribunal administratif de Laval. L'actalité a déposé un référé pour évacuer les producteurs de lait qui campent devant son usine. Et pendant ce temps-là, le groupe laitier et les organisations de producteurs ont repris leurs négociations sur le prix du lait à la préfecture de Mayenne. Le trafic des trains perturbé entre Rennes et Le Mans après une collision entre une voiture et un train. Le conducteur est mort des suites de ses blessures. Les trains sont détournés par la ville de Nantes. 278 morts, c'est le dernier bilan. En Italie, il ne cesse de s'alourdir après le séisme de mercredi dans le centre du pays. Un deuil national a été décrété pour demain.
20h-21h, France Info, les informés, Rémi Inque.
Les informés de France Info, on continue de parler de cette décision donc, du Conseil d'État aujourd'hui. Une chose est sûre, le monde entier a observé la France avec, disons-le, parfois un peu d'effarement. Beaucoup d'articles de presse, de dessins, de critiques. Avant d'en parler, à l'annonce de la décision du Conseil d'État, écoutez la réaction de Michel Tubiana, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, c'est la LDH, et le collectif contre l'islamophobie en France, qui avait saisi la plus haute juridiction administrative française.
Malheureusement, cette décision ne résout rien dans la mesure où il s'est d'abord trouvé des juges administratifs pour prendre une décision inverse, 30 municipalités pour prendre des arrêtés de même nature, et des femmes qui ont été humiliées en public, et cette affaire laissera des traces, des cicatrices, et il est temps de mettre fin à cette perspective de stigmatisation de toute une catégorie de la population, parce qu'elle exerce de manière critiquable ou non l'exercice de sa foi.
L'objectif est atteint, c'est-à-dire que on inverse la victimisation. Alors, jusqu'à présent en France, des personnes qui ont été assassinés en raison de leur religion. Il y a les élèves et les enseignants de l'école juive aux Aratora à Toulouse, et les clients du resto, de l'épicerie hyper cachère de la porte de Vincennes, et un prêtre à côté de Rouen. Voilà, ça, ce sont des crimes.
Je vous passe ce...
De discrimination religieuse. Personne d'autre n'a été discriminé en France ces dernières années en raison de sa religion.
La phrase que je trouve intéressante était « cette affaire va laisser des traces ». Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'image de la France a été ternie ces dernières semaines.
Ce débat, il date pas d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a eu un débat très politique, justement, qui a débouché sur une loi en 2010, la fameuse loi sur le burqa, qui n'est pas une loi sur le burqa très exactement, c'est une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Mm-hmm. Il y a eu des débats assez intéressants, notamment qui ont agité des grands juristes, notamment le regretté constitutionnaliste Guy Carcassonne, qui expliquait bien la limite de la question de l'ordre public. Le sujet, c'était la préservation de notre de notre modèle social, de nos valeurs. Et la question, c'était en fait le vivre ensemble, d'une certaine manière. Donc ces débats ont déjà eu lieu, mais il faut de nouveau les avoir. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait toute la gauche bellante, bien pensante, droits de l'homme, etc. Et alors quand j'entends les partisans des droits de l'homme qui défendent ce genre d'idéologie, en fait, en faisant preuve d'un angélisme, dans le meilleur des cas, qui est à peu près stupéfiant, je crois qu'il faut remettre le métier, il faut reparler de ce sujet. Alors maintenant, effectivement, il y a un côté, la France n'arrive pas à bien se dépêtrer de tout ça, parce qu'on a un gouvernement extrêmement faible, qui ne sait pas sur quel pied danser, complètement, une gauche sur ce sujet complètement explosée. Bon, donc je comprends, on est effectivement ridicule. Cela étant, il faut arrêter, les leçons des États-Unis sur le vivre ensemble sont assez drôles, parce que s'il y a quand même un pays qui a un problème avec le vivre ensemble, avec du racisme et avec des communautarismes, et avec une violence invraisemblable, c'est bien les États-Unis quand même. Moi, j'aime beaucoup, je suis assez, par certains côtés, admiratif du caractère, du dynamisme économique américain et de tout un tas de choses. Mais enfin, quand même, sur le plan du vivre ensemble, les leçons par les peuples anglo-saxons, faut quand même les relativiser quand même. On a un modèle qui est basé sur une longue histoire, sur une certaine forme de laïcité qui n'est pas universelle, effectivement. On a aussi des problèmes spécifiques qui est qu'on est face à cette montée du totalitarisme, qui est né dans les pays musulmans et qui remonte depuis 1979. Juste une petite anecdote, une anecdote vécue. Moi, quand j'étais gosse, je vivais dans une banlieue de la région parisienne, en zone d'éducation prioritaire, quand j'étais en collège. Il y avait 20, 30 ou 40% de jeunes d'origine maghrébine dans ces quartiers. Il y avait effectivement, ils faisaient le Ramadan, ils étaient croyants, etc. Je n'ai jamais vu une femme en burqa. Je n'ai jamais vu une jeune fille refuser d'aller à la piscine en burkini. Je n'ai jamais vu un garçon refuser de serrer la main à un professeur femme. Je n'ai jamais vu de problème d'antisémitisme quand on a évoqué en histoire la question des problèmes israélo-palestiniens. Bon, c'était il y a 30 ans. Et ben, j'aimerais quand même qu'on retrouve un peu ce vivre ensemble. Et là, on est en train, cette montée du total de cette idéologie, elle est politique. L'islam existait déjà et que je sache, les enseignements du prophète étaient à peu près les mêmes en 1980 qu'aujourd'hui. Donc c'est leur interprétation et son instrumentalisation par des mouvements politiques qui est en cause.
On met à chaque Esther Séméon.
Oui, j'allais dire que c'est politique et c'est idéologique. Et le port du burkini, c'est un signe d'extrémisme religieux. Mm-hmm. Ce ne sont pas toutes les femmes musulmanes qui revendiquent porter le burkini.
C'est une minorité, il faut quand même.
Voilà, il faut quand même le rappeler. Une extrême minorité. Et ensuite, si on veut parler de politique internationale, on peut aussi s'inquiéter du fait des femmes qui, elles, ne veulent pas porter le voile dans leur pays où elles n'ont pas le choix.
Des sportifs, par exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux Jeux Olympiques ou autres d'ailleurs? On a pu voir avec des sportifs ont déclaré forfait, si je ne m'abuse, à la dernière minute parce qu'elles ne pouvaient pas exercer leur sport avec le voile, etc. Ce sont des questions profondes. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Est-ce qu'on veut défendre nos valeurs aussi à l'international? Ou est-ce qu'on veut plutôt aller vers une vision communautariste de notre société? Je pense que la majorité des Français n'est pas pour cela.
Éric Scholl.
Je pense qu'il y a des images, dans tous les cas, il y a des images qui font mal. Cette semaine, il y a eu cette image de trois policiers en train d'arrêter...
Dans le Daily Mail, le quotidien britannique.
Mais pas seulement dans le Daily Mail. Elle a été reprise absolument partout. Elle est passée sur les réseaux sociaux et cette image a été absolument désastreuse pour les avocats de l'interdiction du burkini, mais de manière plus générale aussi pour le pays. Parce que la plupart des journaux étrangers se sont précipités sur cette image et ont essayé de comprendre, et vous savez, c'est très compliqué pour les pays étrangers de comprendre la laïcité à la française. Et donc, ils sont tous allés
C'est très compliqué. Oui et non, parce que...
Il n'y a pas tant de pays qui sont laïcs dans le monde.
Non, mais quand vous allez à travers l'Europe, et d'ailleurs aussi au Proche-Orient, l'idée de laïcité française est quand même une référence et quelque chose de phare pour les gens qui se battent pour la laïcité.
Tunisie,
moi, je me souviens de la fin du franquisme. Et les Espagnols qui avaient vécu sous une dictature appuyée par ce qui est le plus réactionnaire dans l'Église d'Espagne, leur modèle,
oui,
c'était
mais
la
est-ce
laïcité
que le modèle, comme
la même chose
le soir,
pour les Italiens,
le journal belge le soir, on parle de la laïcité, le soir écrit, c'est ça la laïcité des hommes en armes qui forcent des femmes à se déshabiller. Je veux dire, par là, il y a eu un résumé tout d'un coup avec cette photo, et qu'on a retrouvé absolument partout, et c'est ça qui a sans doute rendu toute cette affaire grotesque, et je reprends le mot du gardien.
Dans le soir de Bruxelles, ville où on a vu les effets de la communautarisation des quartiers, quand même, tout de même.
Oui, parce que quand on a des reportages sur Molenbeek, peut-être que ce qui se passe en France sur les plages peut paraître scandaleux vu de l'étranger, mais enfin, ce qui a pu se passer à Molenbeek ces dernières années est tout aussi scandaleux, et totalement atterrant quand même. Hein, donc franchement, se faire donner des leçons dans le contexte contexte actuel, c'est quand même pas évident.
On va revenir sur la plage.
On va revenir sur cette discussion dans une minute.
Il y a quand même eu 85 morts au-dessus 15 jours avant.
On va revenir sur cette discussion dans une minute qui est passionnante, évidemment, puisqu'il est 20h24. L'info avec Alexandra Dubouchon.
La reprise des négociations sur le prix du lait à Laval en Mayenne, Lactalis et les organisations de producteurs sont réunies depuis 18h après l'échec des discussions de la nuit dernière à Paris. Alain Juppé, opposé à une loi de circonstance interdisant le burkini, le candidat à la primaire de la droite le dit dans un entretien au Figaro alors que son rival Nicolas Sarkozy lui appelle à déposer une proposition de loi. Il y avait bien des failles dans l'organisation des essais, conclusion du rapport remis aujourd'hui sur l'accident du TGV Est qui a fait 11 morts le 14 novembre. Novembre dernier. Au Brésil, l'ancien président Lula, inculpé pour corruption et blanchiment d'argent, on vient de l'apprendre, alors que le procès en destitution de Dilma Rousseff se poursuit au Sénat. La présidente est accusée de maquillage de comptes publics. Deuil national demain en Italie, drapeau en berne dans tout le pays après le séisme de mercredi matin qui a fait 278 morts. C'est le dernier bilan. La Ligue 1 de football, match avancé de la troisième journée. Ce soir, Marseille reçoit Lorient à partir de 20h45. Thierry Henry chez les Diables Rouges, l'ancien bleu devient entraîneur adjoint de l'équipe de football belge. Et puis record de chaleur battu à Paris ou à Lille en cette fin d'août. Toujours 43 départements sous vigilance orange canicule. La route risque d'être longue ce soir, dernier week-end des vacances d'été. Et Bison Futé voit orange dans le sens des retours.
20h-21h, France Info, les informés. Rémi Inc.
Les informés, on va revenir donc sur ces photos, sur cette publication qui est partie du quotidien britannique The Daily Mail, qui a produit mardi dernier une série de photographies montrant la verbalisation par la police sur une plage de Nice d'une femme musulmane voilée, forcée de retirer une couche de vêtements qui n'était d'ailleurs pas un burkini, tollée ensuite sur les réseaux sociaux. On l'a dit, la presse internationale s'est emparée de l'affaire. C'est quoi ? C'est une facilité de la presse internationale de s'être... concentré sur sur ces photos.
Et oui, je pense que c'est assez facile. Celui de la presse internationale, elle est encore en tête. Nice, il y a eu un grand article dans le Guardian sur Nice et qui est d'ailleurs intitulé La colère et qui fait le lien avec le burkini, c'est-à-dire comment la population de Nice vit entre tristesse, colère et désespoir en quelque sorte. Et cette affaire d'interdiction du burkini. Donc oui, il y a de la part de la presse étrangère une tentative de comprendre à la fois les actions politiques. Or, vous voyez bien, on l'a vu avec les divisions à gauche et à droite, c'est extrêmement quand même compliqué dans le contexte politique actuel de voir entre Manuel Valls, entre maintenant Alain Juppé, de s'y retrouver. Et d'autre part, évidemment, cette photo, elle est quand sortie donc par le Daily Mail. C'est un raccourci très pratique.
Justement,
le raccourci, écoutez.
Guy Konopnicki.
Le trouble à l'ordre public insuffisant pour le Conseil d'État. Faire cette provocation, parce que c'en était une, parce qu'il y a l'histoire du photographe qui est là, faire cette provocation sur les lieux du crime, on connaît la plage de Nice et la promenade des Anglais au-dessus, sur les lieux du crime, c'est une provocation, mais c'est immonde. Voilà, c'est tout.
Alors justement, peut-être que ce journaliste spécialisé que vous connaissez sûrement, David Thompson, qui est spécialisé dans les questions djihadistes, dit peut-être un petit peu la même chose que vous sur ces photos du Daily Mail. Il dit que c'est du pain béni pour les recruteurs djihadistes.
C'est fait pour.
Voilà. Il a même été étonné, disait-il, de voir ces photos publiées en se disant, voilà, ils font le travail à notre place.
Quoi. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est de trouver justement, mais encore une fois, il y a eu ces mêmes débats dans la loi de 2010, l'histoire se répète, sauf que là, évidemment, le débat est beaucoup plus hystérisé, parce qu'il y a eu les attentats abominables des dernières semaines. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours cette fraction, essentiellement à gauche, de gens bien pensants, qui veulent défendre les droits de l'homme, et qui en fait, en voulant défendre les droits de l'homme, indirectement, font le jeu de ce que l'humanité est en train de produire de plus effroyable, comme idéologie qu'on ait vu depuis le nazisme.
Ah, et même la Ligue des droits de l'homme, fondée pour défendre l'homme au sens de l'espèce humaine, dans cette affaire, semble avoir défendu les droits de l'homme musulman, tel que le conçoivent les salafistes.
Natacha Kester-Séméon, un avis sur...
Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on oublie totalement, encore une fois, l'essentiel. C'est qu'on tombe dans ce piège. Dans ce piège, ça veut dire qu'en fait, on perd à tous les coups avec ce débat. On est pris dans un système où en fait, on revient contre nos valeurs.
Légiférer,
on alimente en plus l'extrémisme. On peut imaginer qu'il y aura des provocations, peut-être même l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce processus, ne pas participer à cette confusion ? Et on a besoin d'avoir des repères. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Ce sont de la réflexion de fond, pas politicienne. Et ça, je trouve personnellement que c'est assez insupportable. Finalement, ça tombe évidemment...
Enfin, serait politique, ça serait déjà bien.
Oui, tout à fait. Mais j'allais dire que finalement, ça fait éclater aussi les positions au sein des partis traditionnels. Et on voit bien que ces questions sont transversales et que les clivages sont aussi nouveaux.
Est-ce que ça ne met pas aussi la lumière sur, encore une fois, une minorité et, évidemment, enfin voilà, une minorité de femmes musulmanes qui portent le burkini à la plage. Enfin.
Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Dans quel monde on veut vivre ? Dans quelle société on veut vivre ? C'est la question qu'on va se poser. On est aussi tous dans le chagrin et le traumatisme aussi des attentats de juillet, des attentats au pluriel. On fait comme si, voilà, une information chasse une autre. Moi, je pense vraiment que c'est l'intimidation, c'est de jouer sur le fait de nous diviser les uns par rapport aux autres, de mettre la question religieuse, alors que ce sont des questions politiques au centre du débat, et finalement de ne faire qu'alimenter, d'une certaine façon, les idées extrémistes. On doit se prémunir de ça avec l'humanisme et une réflexion de fond et se calmer, quoi.
20h-21h, France Info, les informés, Rémi Inck.
La deuxième partie de l'émission avec nos informés, Natacha Kester-Séméon, membre de l'association de promotion de la mixité Jamais Sans Elle, Bertrand Martineau, économiste, essayiste, spécialiste de l'emploi et du travail, Eric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, et Guy Konopnicki de Marianne. On va parler donc de la gauche, tout le monde se met en ordre de bataille, certains se déclarent candidats à la primaire de la droite, d'autres à celle de la gauche, les écolos en ordre de marche également, et la gauche de la gauche alors, eh bien elle se rassemble, elle aussi, elle s'organise, c'est la fin aujourd'hui de la 8e université du NPA, le nouveau parti anticapitaliste à Port-le-Cat, dans l'Aude. L'université d'été du PCF, le Parti communiste français, a commencé aujourd'hui à Angers. Elle se terminera dimanche avec un discours à venir de Pierre Laurent, le secrétaire national du parti, demain à midi. Puis enfin à Toulouse, université d'été du parti de gauche, avec dimanche 28, un rassemblement de France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, avec un discours à 13h30. La gauche de la gauche se rassemble donc, mais quel poids a-t-elle aujourd'hui à 8 mois de la présidentielle, Bertrand Martineau?
Bah, elle est éclatée façon puzzle, si vous voulez. Alors, je voudrais faire une remarque. J'adore ce terme de gauche de la gauche. On ne dit pas que le FN, c'est la droite de la droite. Bon, le NPA, c'est l'extrême gauche. Et puis, on a droit d'être d'extrême gauche. Ça n'a rien de...
On peut dire extrême gauche, il n'y a pas de...
Oui, mais on dit très rarement extrême gauche.
On peut même dire c'est l'islamo-gauchisme. Le NPA, assez clairement.
Je ne l'avais pas dit parce que je voulais rester sur le nouveau. La gauche d'aujourd'hui, évidemment, orpheline de ce gigantesque parti qui était le Parti communiste, la gauche ne s'en est finalement jamais véritablement remise, et depuis François Mitterrand, on a essentiellement des aventures individuelles. Alors quand on a des personnalités du niveau de François Mitterrand, bah, ça permet quand même plus ou moins d'arriver au pouvoir. Puis quand on a des personnalités d'un niveau un petit peu en dessous de François Mitterrand, voilà, je veux
criminer personne. Ça permet aussi d'arriver au pouvoir, c'est arrivé.
Ça permet, oui, mais peut-être de manière un peu sur malentendu, et en tout cas pas de manière aussi structurée. Et donc on a effectivement une gauche extrêmement éclatée, et l'extrême gauche donc ne pèse quand même pas énormément, et est terriblement concurrencé par le Front National. Encore une fois, on est en train de se répartir les restes de cette gigantesque histoire qui a eu lieu avec le Parti communiste.
Eric Scholl.
Oui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, en 2012, Jean-Luc Mélenchon arrive à faire un score à peu près honorable, même il fait 11%, je crois, au premier tour. C'est un bon score. Quand on regarde aux dernières élections, donc les régionales, au premier tour, tout le parti de gauche fait 2,5. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une perte. C'est en millions de voix. Il y a eu des pertes complètes, un écroulement. C'est assez intéressant si on regarde ce qui s'est passé ailleurs à l'étranger. Parce qu'au fond, quand on a des expériences de partis sociodémocrates qui finalement ne fonctionnent pas en Espagne, le PASOK en Grèce, etc., il y a eu des mouvements de gauche nouveaux. À l'époque, c'était les Indignés qui s'est transformé ensuite en Podemos en Espagne. On avait eu le mouvement Syriza en Grèce et qui avait réussi à engranger, en tout cas électoralement, pas forcément pour très longtemps, mais qui avait réussi à engranger, en tout cas électoralement, des gains. Eh bien, on observe pas ça aujourd'hui, sans doute à cause de cette division, bon, qui est inhérente à cette gauche française.
Juste un tout petit point, pour revenir sur le Parti communiste, il avait deux forces. Il avait une idéologie, donc, très structurée en interne, puis il tenait quand même des collectivités locales, puis il y avait une grande référence à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a aucune référence à l'étranger, parce qu'honnêtement, même pour quelqu'un d'extrême gauche, Syriza est assez grotesque, puisqu'il fait une politique d'austérité que même Mme Merkel n'aurait pas osé faire. Bon. Donc, il n'y a pas de référence à l'extérieur, et il n'y a pas vraiment d'idéologie, puisqu'on est sur, dans le meilleur des cas, on est sur du clientélisme, en gros, une petite partie de la fonction publique, etc. Dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c'est le vide intersidéral.
Non, mais je crois que cette gauche de la gauche, ce qu'on appelle comme ça, n'a jamais pris la mesure de la transformation du monde. Parce que ça n'est pas seulement l'échec catastrophique du socialisme façon soviétique partout. Pour la génération suivante, l'idée que les révolutions du tiers-monde allaient régénérer le concept révolutionnaire, mais elles ont fait pire que l'Union soviétique et la Chine réunies, les révolutions du tiers-monde. Donc, ils ont continué à courir après. Donc, à courir après, même à une époque, la révolution iranienne, finalement, non, c'est pas ça. Bien. Et alors, le Venezuela, c'est formidable, le Venezuela, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, surtout, pour les plus pauvres, pour les travailleurs. Qu'est-ce qui reste ? Cuba. Mais Cuba, ça va aller beaucoup mieux. Ça va redevenir une grande destination touristique, peut-être quand même pas un lupanar, mais la grande destination touristique américaine, etc. Donc, tout ça, rien n'a marché. Pas de projet. Alors, quand vous entendez des gens dire « Ah oui, mais ce communisme-là était la caricature », oui, bah, c'est vrai, mais on va en faire un autre. Alors, mais c'est confondant, ce que le NPA ose appeler une université d'été. Alors, là-dessus, ils se font l'illusion sur le fait qu'il y a eu un mouvement social. Il y a un mécontentement face à Hollande. Ce mouvement social, d'abord, c'est vrai qu'il a été dynamique, qu'il a été virulent. Il n'a jamais réussi à rassembler la classe ouvrière.
Justement, comment expliquer combien il y avait de grévistes tout à l'heure, de passer de 12% en 2012 à aujourd'hui de 1,5%.
Alors, moi je crois que il ne suffit pas de dire « Ah, cette gauche-là qui est au pouvoir est en train de nous trahir, c'est pas pour ça qu'on a voté, il faut faire autre chose ». Mais il faut faire quoi ?
Première chose. Il n'y a pas de vision.
Pas d'austérité. Bon, pas d'austérité. Effectivement, Tsipras est obligé de pratiquer une politique d'austérité en Grèce. Alors, il y a deux références comme ça. Il y a Tsipras, et puis de l'autre côté, il y a l'Espagne, Podemos. Voilà. Là, ça ne marche carrément pas. Nous débouchons sur une crise politique où on ne trouve plus de majorité. Ouais. Belle perspective. Et donc, c'est un truc. Alors, le pauvre Mélenchon, au milieu de ça, essaye de se dégager des appareils. Parce que l'autre raison, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé en Grèce, où effectivement, le PASOK, le Parti Socialiste Grec, s'est effondré et a été remplacé par un autre parti. En France, le bon score de Jean-Luc Mélenchon, parce que 11% c'était un bon score, est immédiatement gâché parce que ces 11% sont capturés par tous les petits appareils. Le PC, qui estime qu'il est remonté à 10%, alors que sa contribution à ça, alors c'est vrai qu'il a les députés, parce qu'il a les circonscriptions et les mairies. Ensuite, tous les petits machins qui s'appellent Ensemble, ceci et cela, il a dit, ben, j'arrête, j'y vais tout seul. Comme il dit, j'y vais tout seul, mais tous les autres sont en train de lui dire, ah non, attends, on y va aussi. Et donc, ça, à l'arrivée, ça ne donnera pas grand-chose, surtout si on ajoute que les Verts, si c'est Cécile Duflot qui gagne, vont chercher un bout du même électorat au lieu de chercher à rassembler un véritable électorat écolo. Alors donc, on est mal.
Natacha Kester-Séméon.
Moi, je pense qu'en creux, on voit aussi qu'il y a une grande crise politique majeure au Parti Socialiste et on voit aussi l'arrivée de Montebourg, qui on ne sait pas tout à fait comment il va se placer.
Est-ce que j'ai pas vu l'extrême gauche aujourd'hui, finalement?
Est-ce qu'il va se candidater ou pas aux primaires de la gauche? Il est un petit peu entre deux, on se pose la question. Et donc, il y a un flou et je pense aussi qu'il y a un questionnement aussi autour de tous ces partis. Est-ce que d'ailleurs le Parti Socialiste survivra quoi qu'il arrive à 2017? Enfin, on est dans une recomposition politique et en même temps, je pense à une perte de repères. C'est-à-dire que ce sont des repères effectivement assez anciens, quand même, avant la chute du mur de Berlin, il y a un petit moment déjà. Et finalement, il y a une tentative aussi de repli sur soi, comme si on allait pouvoir se protéger du monde dans lequel on est. Et cette tendance un petit peu aussi, qui peut avoir un petit peu souverainiste aussi, Simon de Bourg, on le voit aujourd'hui qui est en train d'émerger de façon un peu mutante et on ne sait pas tout à fait ce que ça va devenir. Avec Hamon, Montebourg, au PS, qu'est-ce que va faire le PS, enfin, tout ça est en recomposition.
Éric Scholl.
Oui, cette perte de repères, donc encore une fois, elle n'est pas purement française. Elle s'inscrit aussi dans un contexte européen de crise politique, mais majeure. Regardez Angela Merkel qui, en ce moment, est en train de perdre des points. Alors, on pourrait imaginer que la gauche, ou voir que le mouvement qui est plus à gauche, Die Linke, en profite. Pas du tout. Le mouvement qui en profite, c'est un mouvement de droite, voire d'extrême droite. C'est l'AFD, c'est-à-dire l'Alternative pour l'Allemagne, qui est en train de progresser fortement. Tout ça, évidemment, se fait dans un contexte contexte de débat sur la politique d'intégration des réfugiés défendue par Angela Merkel, mais on voit que dans la plupart des pays, c'est plutôt les mouvements populistes qui profitent, et plutôt les mouvements populistes à droite toute. C'est le cas avec ce mouvement un peu particulier en Italie, du mouvement des 5 étoiles. Et aujourd'hui, les partis donc de gauche traditionnels un peu partout, sociaux-démocrates, sont quand même très clairement abîmés partout. Et l'extrême gauche, en tout cas en France, on le voit bien, n'en profite absolument pas. On a déjà presque oublié qu'il y a eu un mouvement qui s'appelait Nuit debout il y a quelques mois et qui ne sait, on n'en voit aucune traduction politique aujourd'hui.
C'est parce qu'il y a une répression policière assez importante.
Peut-être que ça va venir.
Pas sur la place de la République.
Pas du tout.
Pas sur la place de la République. Mais par contre, sur la place de la République, comme je disais, le problème de la kyrielle des petits appareils et des groupuscules à gauche de la gauche, c'est-à-dire qu'il y a tous les groupes qui ont campé. Et alors les jeunes gens qui allaient.
Les intellos qui étaient là-bas, c'était quand même des zozos. Je veux dire, c'est quand même pas les héritiers de Jean-Paul Sartre ou de Michel Foucault. Je veux dire, on a quand même beaucoup perdu en matière grise, quand même, hein, dans les mouvements gauchistes.
Oui, et puis il y a quand même après tous les petits appareils qui campent, une fraction des Verts, une fraction du NPA, ceci, cela.
Mais en même temps, ça ne veut pas dire, je pense, qu'il n'y ait pas un sentiment de révolte toujours existant. On l'a vu à travers François Ruffin, qui était quand même un des organisateurs de Nuit debout. On a bien vu son film Merci Patron a très bien fonctionné. Mm-hmm. Et donc il y a ce sentiment de révolte va sans doute s'incarner quelque part.
Vous entendez, on le voit pas. Il s'incarne en partie au Front National.
Bien sûr. Il va s'incarner quelque part, mais on ne le voit pas aujourd'hui dans toutes ces formations qui, en plus, pour le coup, il y a des jeux de personnes, et donc c'est totalement éclaté.
L'extrême gauche ne va pas réussir à se faire entendre.
Le problème, c'est que le sentiment de révolte est confisqué par les islamistes et par le Front National. À part ça, tout va bien. Il est dommage. Moi, je trouve très dommageable. Je trouve très dommageable pour la France qu'il n'y ait pas une vraie gauche radicale, politique, intelligente, syndicale en même temps. C'est vrai que la société française, la démocratie française, c'est aussi une des raisons d'ailleurs des poussées et du Front National et de l'islamisme. La société française est orpheline d'un pôle tribunicien.
Le Parti communiste des années 70.
Qui était le Parti communiste des années
70. S'en est jamais remis.
Bien sûr.
Chers informés, on revient dans une minute. Le temps de faire un point sur l'info avec Alexandra Duboucheron à 20h46.
Le Burkini s'invite dans la campagne pour la primaire de la droite après la décision du Conseil d'État de suspendre l'arrêté de Villeneuve-Loubet. Alain Juppé refuse une loi de circonstance pour interdire ce maillot de bain intégral. Le maire de Bordeaux le dit dans un entretien au Figaro à paraître demain. Alors qu'hier, Nicolas Sarkozy, lui, s'est prononcé en faveur d'une législation. Reprise des négociations sur le prix du lait à Laval en Mayenne. Ce soir, Lactalis et organisations de producteurs sont réunies à la préfecture depuis 18h après l'échec des discussions la nuit dernière à Paris. Grève annoncée pour la rentrée scolaire à l'appel du SNES-FSU. Dès le 8 septembre, le premier syndicat d'enseignants du secondaire s'oppose, entre autres, à la réforme du collège. L'Italie rendra hommage aux 278 victimes du séisme demain, alors que le chef du gouvernement, Matteo Renzi, et le président Sergio Mattarella assisteront aux funérailles d'une cinquantaine de personnes dans le village d'Aquarta del Tronto. Au Brésil, la police a inculpé l'ancien président, Luiz Inácio Lula da Silva, pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête Petrobras et en plein procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le coup d'envoi a été donné il y a 2 minutes pour la 3e journée de Ligue 1 au Stade Vélodrome. Marseille reçoit Lorient.
20h-21h, France Info, les informés. Rémi Inck.
La suite des informés, 4e et dernière partie. Prenons la direction de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donc inauguré un 3e pont sur le Bosphore aujourd'hui. C'est tout simplement le plus grand pont suspendu ferroviaire du monde avec des piliers à 320 mètres. C'est la hauteur de la tour Eiffel tout de même. 1,5 km de longueur, 8 voies autoroutières et 2 voies ferrées qui vont relier l'Europe à l'Asie. Le tout pour près de 800 millions d'euros. Avant d'en discuter avec vous, chers informés, les précisions d'Alexandre Billette, notre correspondant à Istanbul.
C'est un projet fou, l'expression est de Recep Tayyip Erdogan lui-même pour qualifier les méga-projets qu'il a initiés à Istanbul. Les autorités assurent que le pont va soulager Istanbul de ses bouchons légendaires en absorbant le trafic des poids lourds en transit. Faux, répondent les détracteurs du projet. Ce trafic représente à peine 3% de la circulation actuelle sur les deux ponts du Bosphore. Autre sujet d'inquiétude, l'environnement. comme l'explique Tayfun Karaman de la Chambre des urbanistes d'Istanbul.
Le pont a été construit au cœur de la forêt d'Istanbul. Le seul espace vert se trouve aujourd'hui ici au nord. C'est le dernier espace vert de la ville. Et en plus, cet endroit est le réservoir d'eau d'Istanbul. Ce sera donc de plus en plus difficile de respirer dans cette ville en perdant ces deux éléments. Et Istanbul devra se fournir en eau depuis l'extérieur s'il n'y a ni source d'eau ni verdure dans une ville. Sans ces éléments, une ville ne peut pas survivre.
Puisque la nature a horreur du vide, il est donc probable que cette région s'urbanise à grande vitesse. En conséquence, le troisième pont sur le Bosphore pourrait bien engendrer davantage de trafic automobile, ce trafic qu'il est justement censé résorber. Istanbul, Alexandre Billet, RFI pour France Info.
Que cherche à faire, que cherche à montrer Recep Tayyip Erdogan avec l'inauguration de ce gigantesque pont, Eric Scholl?
Si vous voulez, il y a une chose intéressante. Ce pont, il a été baptisé du nom de Yavuz Sultan Selim, c'est-à-dire Selim Ier. Ça a été le premier calife de l'Empire Ottoman au XVIe siècle. Et c'est sans doute pas un hasard.
Qui est aussi connu pour avoir massacré la communauté alévie aussi.
On l'appelait le brave ou le terrible. Donc
voilà.
Et effectivement, ça fait partie du grand projet de nouvelle Turquie, de grande Turquie d'Erdogan depuis maintenant. Il est au pouvoir depuis maintenant 2003. Alors il a subi, il a été arrêté à plusieurs reprises, soit par les élections, soit par les scandales, etc. Mais au fond, il poursuit sa route dans les grands travaux. Donc on a parlé de ce pont, mais il y a tout un tas de grands travaux encore en cours. Rappelez-vous, en 2013, quand on a eu ces affrontements sur la place Taksim à Istanbul, sur le parc Gezi, c'était justement parce que c'était des aménagements de cette place. L'été dernier, il y a une grande mosquée, mais gigantesque, pharaonique, qui a été inaugurée au centre d'Istanbul. Il va ouvrir un aéroport, un des plus grands aéroports du monde. Enfin, en tout cas, c'est son souhait d'ici 2 ans ou 3 ans. Il veut faire un nouveau détroit sous le Bosphore. Enfin, c'est une certaine folie des grandeurs c'était son projet, si vous voulez, alors on peut appeler ça l'islamo-gauchisme, enfin, en tout cas c'est son parti au pouvoir, l'AKP, qui est de rendre à la Turquie, de reprendre, de redonner à la Turquie un rôle gigantesque. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a encore quelques mois, on disait qu'il était quasiment fini, il y a quand même ce putsch il y a maintenant moins d'un mois, un putsch de l'armée. Or, dans la même semaine, qu'est-ce qu'il fasse? Il passe à l'offensive militaire en Turquie, avec cette même armée qu'il avait, qui a essayé de le défaire il y a moins d'un mois. Et aujourd'hui, on le voit, l'inaugurer. Donc, il revient à l'offensive. Parallèlement, sur le plan diplomatique, là, on croyait qu'il était là aussi fini. Il a quand même reçu Biden cette semaine à Ankara. Il a été reçu par Poutine il y a une quinzaine de jours, alors qu'on sait que les relations entre la Turquie et la Russie depuis un an avaient été extrêmement difficiles. On le voit dans une opération diplomatique, offensive militaire, etc. Sans pourtant que cela présume, enfin, il a toujours beaucoup de dangers tout autour de lui. Danger, évidemment, parce que il a repris les affrontements avec les Kurdes. Et d'ailleurs, son offensive aujourd'hui qu'il est en train de mener en Turquie, c'est une des façons aussi de mettre de côté les Turcs, les Kurdes de Syrie. Des dangers parce que il lui-même a des fronts. Il veut absolument s'en prendre. Bien sûr.
Non, c'est même l'objectif, c'est couper les Kurdes Peshmerga qui se battent contre Daesh. Des Kurdes de Turquie. Et donc cette offensive, ah, c'est merveilleux, il combat les islamistes, non. Il est surtout en train de faire en sorte que les Peshmerga, qui sont les seuls combattants de terre en dehors de cette armée irakienne qui s'évanouit dans la nature tous les 3 jours, sont les seuls combattants. Ils vont se retrouver face aux Turcs, dont l'objectif est d'empêcher l'existence d'un Kurdistan, voilà, c'est tout.
Revenons surtout, si vous le voulez bien, sur ce pont. C'est pas la première fois qu'il lance, vous l'avez dit, Eric Scholl, des grands travaux. Merci. Il y a eu évidemment ces lignes ferroviaires à grande vitesse, des nouvelles centrales hydroélectriques et thermiques. Il y a eu aussi cette photographie d'Erdogan qui avait beaucoup fait parler l'année dernière. C'était en février, il me semble. Il avait inauguré le palais présidentiel en 2015, février 2015. Il y avait eu cette photo, donc, entouré de soldats qui portaient des uniformes des 16 états créés par les Turcs depuis les confédérations de tribus nomades turcophones d'Asie centrale jusqu'à la République fondée en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman. Est-ce que Erdogan cherche à être le nouveau sultan aujourd'hui ?
En tout cas, il exerce, il a cette volonté de faire du soft power, si je puis dire. On le voit dans toute la région. Mais rappelez-vous, il y a encore quelques années, on parlait de la diplomatie turque dans la région. On s'est aperçu à quel point elle a échoué, parce que notamment depuis le début de la guerre de Syrie. Donc, il n'a pas réussi à s'imposer comme étant l'interlocuteur unique. Ses relations avec l'Europe sont extrêmement compliquées et vont devenir. L'Europe n'a plus de confiance aujourd'hui dans Erdogan.
En tout cas, il n'est pas prêt de rentrer dans les critères d'endettement de l'Union européenne avec les travaux qu'il fait, parce que
ni d'endettement, ni de démocratie, ni de liberté de la presse. Il faut voir que la plupart des journaux ont été tous fermés cet été. Enfin, ce qui s'est passé, la purge qui a eu lieu après le coup d'État de cet été a été absolument dramatique.
C'est assez récent.
Bertrand Martineau, Natacha Kester, c'est bon, je vais vous donner la parole tout de suite. Il faut juste qu'on fasse un point sur l'actualité. À 20h53, l'info avec Alexandra Dubouchon.
La décision du Conseil d'État n'épuise pas le débat ouvert dans notre société. Déclaration du Premier ministre Manuel Valls sur Facebook après que la plus haute juridiction française a suspendu l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Nice, Fréjus, Villeneuve-Loubet, Cisco et Le Cat ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne retireraient pas leurs arrêtés. À Laval, les syndicats de producteurs de lait menacent de maintenir leur blocage devant l'usine de Lactalis tant qu'aucun accord n'est trouvé avec le géant des produits laitiers sur le prix du lait. Les deux parties sont actuellement en train de discuter à nouveau à la préfecture. Les feux ont repris dans la région de Barbadio en Haute-Corse ce soir à cause du vent. Le bilan dépasse désormais les 500 hectares brûlés, c'est ce qu'on a appris auprès des pompiers. Deuil national demain en Italie, drapeau en berne dans tout le pays après le séisme de mercredi matin qui a fait 278 morts à quelques 150 km au nord-est de Rome. Le coup d'envoi entre Marseille et Lorient a été donné il y a 10 minutes maintenant et toujours 0-0. C'est la troisième journée de Ligue 1 au Stade Vélodrome.
20h-21h, France Info, les informés. Rémi Inck.
La dernière partie des informés, on revient sur peut-être l'emprise du président turc Recep Tayyip Erdogan sur son pays, Bertrand Martineau.
Je crois que le terme... on peut vraiment se demander, même si cliniquement, il n'y a pas un problème de mégalomanie, de quelqu'un qui est hors contrôle en interne, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il est en train effectivement de mettre tout le pays en coupe réglée. Il n'est pas contrôlé au niveau international, c'est-à-dire qu'il appartient encore à l'OTAN, mais je doute de la capacité des pays occidentaux à le contraindre de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un joueur d'échecs absolument génial, ou est-ce que c'est quelqu'un d'extraordinairement brouillon? Moi, j'ai peur que ce soit la deuxième option. Et il est quand même de loin la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient dans cette zone en tout cas. Bon, donc c'est quand même une déstabilisation géopolitique absolument gigantesque. On est passé d'un pays laïque qui opposait une résistance à l'islamisme radical, mais génétiquement, vraiment très fortement un peu partout, à un pays qui est terriblement déstabilisateur. Et l'Union européenne est évidemment aux premières loges. Et c'est pas avec des États-Unis qui sont sur le reculoir sur ces questions géopolitiques actuellement que l'Europe est à l'abri. L'Europe préfère s'occuper de réguler la puissance des aspirateurs domestiques pour la couche d'ozone ou je ne sais quoi. Je crois qu'il serait temps de faire un peu de géopolitique.
Natacha Kester-Séméon.
Il y a aussi les libertés qui reculent. Évidemment la liberté de la presse et pas seulement. Par exemple, il y a ces derniers jours, il y a la romancière et poétesse Asli Ordagon qui a été incarcérée, qui défendait dans son journal les revendications kurdes. Il y a aussi la Gay Pride qui a été violemment réprimée l'année dernière. Et d'ailleurs, il y a un jeune trans de 22 ans, Ankader, qui s'est fait assassiner, qui a été brûlé il y a quelques jours, alors qu'il avait été un des héros de la Gay Pride l'année dernière. On voit vraiment que les libertés reculent dans tous les domaines. C'est extrêmement inquiétant. On se demande, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce problème?
Vous ajoutez la négation violente du génocide arménien lors de son centenaire l'année dernière, en 2015, avec carrément de la répression contre les journalistes, les historiens qui osaient rétablir l'histoire. Donc c'est un régime, je crois, alors fin de l'illusion selon laquelle, parce que qu'est-ce qu'on nous disait quand Erdogan est arrivé au pouvoir? Voilà un islamisme modéré qui sera dans le monde musulman l'équivalent de ce qu'a été la démocratie chrétienne en Europe. Eh ben, Erdogan n'est pas l'équivalent de Konrad Adenauer, de Maurice Schumann et d'Alcide de Gasperi. On en est très 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 loin. On est sur une forme de pouvoir autoritaire. Alors le coup d'État, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que l'histoire nous dira plus tard. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé
on connaît la phase répressive, la phase du coup d'État déjoué. On ne sait pas si c'est...
On sait qu'il est à l'origine de ce coup d'État ou qu'en tout cas il l'a utilisé politiquement.
En tout cas, il l'a utilisé politiquement assez fortement. Et le résultat, c'est que l'opposition démocratique, ou au moins laïque, les kémalistes, les gens comme ça, ils sont totalement anesthésiés. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas du côté des éventuels putschistes. Donc, ils sont totalement anesthésiés. Il fait qu'il fait un coup double. D'une part, il liquide l'aile marchande de son armée et les plus islamistes que lui. Et de l'autre, il a une opposition qui baisse la tête alors qu'elle espérait le renverser aux prochaines consultations électorales. Donc, c'est quand même un peu inquiétant comme situation.
Eric Scholl, peut-être un dernier point là-dessus.
Oui, je crois qu'on a aujourd'hui, avec la Turquie, un pôle de déstabilisation majeur. La grande crainte, c'est que la Turquie devienne une nouvelle Syrie. C'est, il y a en tout cas des éléments qui pourraient entraîner cette logique. Il y a eu aujourd'hui un attentat. C'est-à-dire qu'au moment où lui prend plein d'initiatives et fait quand même presque de la communication à travers ses initiatives, que ce soit cette inauguration ou l'offensive lancée il y a deux jours, on a quand même des vraies raisons d'être inquiets.
Merci à tous. Les informés du jour, Natacha Kester-Séméon, membre de l'association de promotion de la mixité Jamais sans elle, Bertrand Martineau, économiste, essayiste, spécialiste de l'emploi et du travail, Eric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, et puis Guy Konopnicki,
merci.
De Marianne. Merci à tous les quatre d'avoir été les informés ce soir de France Info.